Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Bonjour Samuel Michalon.
Bonjour.
Vous êtes diplômé en psychologie et vous faites partie d'une coopérative intervenant dans le champ de la prévention des risques psychosociaux liés au temps salarié. Vous réalisez des formations auprès de différents publics afin de les sensibiliser à la souffrance au travail et de les amener à questionner la place centrale du salariat dans la société. Vous venez aujourd'hui nous éclairer de vos recherches sur cette thématique citoyenne qui nous concerne tous. Alors, Samuel Michalon, le travail est-il malade ?
Le travail est-il malade ? C'est une bonne question, je ne sais pas si c'est la bonne formulation. L'emploi salarié est malade, ça c'est sûr. Le travail se porte bien, mais du coup ça voudrait dire redéfinir un peu les termes. Le travail, c'est la grosse enveloppe de toutes les activités humaines qui nécessitent un effort et qui transforme le monde et qui transforme les individus. L'emploi n'est qu'une forme restreinte du travail qui est la forme légitime dans notre société moderne, qui est encadrée par un code du travail, qui est encadrée par un contrat et qui a des règles bien spécifiques et qui est insérée dans un modèle économique qui est concurrentiel. Voilà. Donc déjà, quand on a dit ça, on comprend pourquoi l'emploi peut être malade, puisqu'il y a effectivement une concurrence, et au-delà de ça, la forme que prend l'emploi avec le contrat de travail indique et implique un lien de subordination, donc un rapport d'autorité qui peut parfois être extrêmement pesant et arbitraire, et qui indique une relation inégale et un rapport de force entre les individus.
Alors si l'emploi est malade et non le travail, est-ce que le travail a encore une valeur aujourd'hui dans la société ?
Alors ça c'est toute la question, c'est que le travail a pris une place centrale, c'est le travail au sens de l'emploi, c'est l'objet en fait premier d'insertion et d'intégration sociale, puisque ce qui définit l'être humain dans nos sociétés modernes c'est... l'identité professionnelle, le statut professionnel et ce qui va donner le rang social. Donc la première question qu'on pose à un étranger, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et en fonction de la réponse, on va pouvoir calibrer la situation de l'individu. Donc ça, c'est un objet d'interaction sociale et de négociation sociale, c'est-à-dire que en fonction de ce que je fais, ce que je fais me définit. Donc y a une confusion entre l'être et le faire. C'est la première chose. Donc ça nécessiterait pour les individus de re-questionner leur propre rapport à l'objet travail ou à l'objet emploi, puisqu'en fait l'emploi c'est un simulacre, c'est pas le lieu de définition de la personnalité. C'est un espace parmi tant d'autres, mais l'espace de la famille, l'espace associatif, l'espace de l'espace affectif permet de se définir. On n'a pas besoin d'avoir un emploi pour se définir socialement.
Donc vous pensez que le travail en tant que tel n'est plus la définition de la personne ?
Il l'a jamais été en fait. Quand on regarde l'évolution historique, nous, une des grosses racines de notre société moderne, c'est l'antiquité gréco-romaine. L'activité de travail au sens où on l'entend de l'emploi, c'était quelque chose qui était extrêmement dévalorisé. N'oublions pas que le mot travail, c'est une des étymologies, c'est le mot torture, c'est tripalium. Donc arrêtons de penser que c'est quelque chose de naturel qu'on puisse s'épanouir par le travail. Comment s'épanouir avec un objet de torture ? Ça c'est déjà une vraie question philosophique.
C'est sûr. Alors, bien loin de l'épanouissement, à l'heure actuelle, les suicides sont de plus en plus nombreux dans les grandes entreprises. On annonce un mort par jour à cause du travail en France. C'est un chiffre qui vous étonne ?
Je pense que... Non, il ne m'étonne pas. Je pense qu'il est minimisé. Premièrement, c'est qu'on est sur un ratio de un mort par jour. C'est quand on prend en compte les accidents du travail sur une souffrance physique. Est très peu pris en compte dans les indicateurs statistiques nationaux les éléments de souffrance mentale. On est encore à la peine à l'heure actuelle en France, dans un pays soi-disant moderne, pour discriminer les suicides qui seraient de l'ordre du travail ou ce qui seraient les suicides de l'ordre avec des origines variées, problématiques psychiatriques, personnelles, familiales, sociales. Donc on a une difficulté. À l'heure actuelle, les études disent qu'en fait, il y aurait environ 400 suicides en France qui seraient imputables au travail principalement, puisqu'on sait
parents.
Que c'est parents, puisque c'est multifactoriel, les causes du suicide. Mais donc du coup, on est sur un ratio, on n'est pas à un mort par jour, on est à bien plus.
Comment ça se fait qu'on puisse pas, en France, déterminer la cause d'un suicide, déterminer en quelque sorte le volume de souffrance au travail ?
Déjà d'une part, c'est que déterminer le volume de souffrance au travail, ça se fait pas uniquement sur le marqueur du suicide, ça c'est la première chose, parce que c'est très complexe. La deuxième, c'est que en tant que pays de l'OCDE, on a été un des derniers en fait à se pourvoir d'un observatoire du suicide. Donc ça c'est quelque chose, c'était une des premières mesures sociales qu'a fait François Hollande quand il était président. Donc on est vraiment en retard, on avait entre 15 et 20 ans de retard par rapport aux autres pays. Donc je pense qu'il y avait une volonté politique de ne pas considérer la question, puisque c'est une question qui fait très très peur, puisqu'on sait qu'en fonction des catégories d'âge, c'est une première cause de mortalité. Voilà. Donc ça veut dire que si on le mesure, il faut le prendre en considération, il faut agir dessus. C'est bien plus facile d'agir sur la sécurité routière que sur la question du suicide.
Mmh.
Voilà. En tout cas, les mesures sont beaucoup plus efficaces et sont beaucoup plus rentables quand on agit sur des questions type sécurité routière que sur suicide. Et après, ce qu'on oublie dans la souffrance au travail, c'est qu'on n'en meurt pas toujours, mais on en finit parfois très handicapé, puisqu'il y a des gens qui vont être dans des conduites d'évitement, puisqu'ils ne vont plus pouvoir sortir de chez eux, parce qu'ils auront été tellement traumatisés de leur expérience professionnelle que du coup, ils pourront plus agir comme ils agissaient avant. Donc ça, c'est à prendre en considération. Juste un chiffre qui indique quand même quelque chose, c'est qu'en France, par an, le coût de la souffrance au travail, c'est considéré, on estime que c'est entre 5% et 10% du PIB.
Donc du en PIB fait, du produit intérieur brut.
Le produit intérieur brut, en fait, pour créer de la richesse, on va en fait détruire des individus, puisque au-delà du chiffre de 5% ou 10%, c'est le fait que c'est des individus qui vont s'abîmer en fait dans l'expérience de leur emploi.
Oui, c'est quand même assez impressionnant.
C'est assez impressionnant. Et si ça là, on rajoute un point qui est souvent oublié dans les études un peu médicales sur la question, on sait qu'il existe un syndrome qui s'appelle le syndrome de Karoshi, qui est la mort par épuisement professionnel, qui, comme son nom l'indique, vient du Japon.
Qui vient du Japon, oui.
Voilà. Il faut savoir que les Japonais, ça fait depuis les années 70 que c'est reconnu comme maladie professionnelle. Donc ça veut dire que les familles de victimes où un individu qui était en bonne santé décède brutalement à cause d'une surexposition en fait, à la contrainte de travail, à la charge de travail, en perd la vie.
Il y a des indemnisations.
Il y a des indemnisations pour les familles. Voilà, donc on peut monter des dossiers pour être reconnu. À l'heure actuelle, les moyennes, elles oscillent au Japon depuis les années 70. On a une reconnaissance entre 400 et 600 dossiers par an de décès brutal pour une personne qui est en bonne santé physique.
Finalement, on est presque au même niveau.
Sauf qu'en France, on n'a pas d'observatoire pour ça. Donc ça n'existe pas. Donc en fait, il y a tout un tas de. Donc c'est pour ça que, à votre question tout à l'heure sur le nombre de morts par jour, en fait, il est minimisé. Et c'est extrêmement grave, puisque du coup, c'est des personnes qui. On estime que depuis 20 ans, la France a fait un grand pas en avant, puisque malheureusement, les vagues de suicide ont permis de sortir du tabou de la souffrance au travail. Mais on se rend bien compte qu'il y a encore tout un tas de zones qui restent un peu dans l'angle mort et qui ne sont pas parlables socialement.
Alors si on prend la loi Travail 2 proposée par Emmanuel Macron, les ordonnances qui sont passées là tout récemment, elles sont passées plutôt facilement grâce à de longues négociations. Deux branches importantes, les routiers et les dockers, ont réussi à signer une sorte d'accord dérogatoire sur les prérogatives de branche. Alors on ne comprend pas toujours très bien ça aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces accords et le poids qu'ils auront sur le travail et sur la souffrance au travail selon vous ?
Alors pour comprendre ça, il faut revenir en fait sur la loi travail, la loi El Khomri, qui a été faite sous le précédent quinquennat. La volonté du gouvernement à l'époque, c'était la pierre angulaire de cette loi travail, c'était l'article 2 qui venait inverser en fait ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc en France, grosso modo, on a trois niveaux de négociation dans l'espace professionnel. Pour rappel, si on négocie, c'est qu'on estime que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un lien de subordination. Et donc, il y a un rapport inégalitaire entre les individus. Donc, en fait, la démocratie ne souhaite pas ça. Donc, il faut recréer des espaces où les gens peuvent être représentés. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et le code du travail, en ayant bien connaissance, en ayant bien en tête que du coup il y avait un rapport inégalitaire entre l'employeur et le salarié, avait créé des espaces, donc trois niveaux de négociation. Le premier, le niveau central, qui est ce qu'on appelle les accords nationaux interprofessionnels, les ANI, qui sont négociés entre les partenaires sociaux représentatifs soit d'employeurs, soit de salariés au niveau central, qui négocient, qui font des accords cadres. Ensuite, le deuxième niveau de négociation, c'est les accords de branche. Donc là, en fait, on regroupe les entreprises, soit d'un secteur géographique, soit d'un
même... Comme les dockers, comme les routiers, voilà. Les cheminots.
Les cheminots. Et donc, du coup, ça va faire on va négocier au niveau des branches. Ça a été créé pour éviter le dumping social. On critique le dumping social qui existe en Europe ou le dumping fiscal, puisque du coup, il y a des pays qui vont être plus attractifs. Et donc, du coup, ça va être préjudiciable pour les autres pays. Mais en fait, on a créé les accords de branche pour éviter le dumping, la concurrence entre les grandes les entreprises d'un même secteur en France. Et ce que permet en fait la loi travail, c'est de venir mettre en concurrence des entreprises d'un même secteur par le troisième niveau de négociation, par les accords d'entreprise. Et ce que crée en fait comme brèche la loi travail, c'est que on vient favoriser en fait les accords d'entreprise. Donc ça, c'est au profit de la négociation entre employeur et salarié, plutôt qu'au niveau de la branche. Ce qui va faire que du coup, vu qu'un salarié est en position de faiblesse pour négocier, il est structurellement en position de faiblesse pour négocier, puisque du coup, il craint pour son emploi et que c'est l'employeur qui possède l'outil de travail. Du coup, ça va être plus facile pour l'employeur de négocier à la baisse. Et donc, du coup, si une entreprise A négocie à la baisse, l'entreprise B, si elle veut devenir concurrentielle, il faut qu'elle négocie à la baisse. Donc, du coup, en fait, c'est la porte ouverte à une négociation au rabais, et ce qui va faire que les SMIC horaires vont diminuer, parce que du coup, si on prend l'ensemble des primes qui étaient versées dans une entreprise, ben, en fait, le taux horaire d'un individu en fait, va baisser, puisque du coup, ça va être négocié en fonction des accords. Et donc, du coup, ben, le coût pour l'employeur va diminuer, donc du coup il va être plus attractif sur le marché et donc du coup son concurrent aura l'obligation de négocier de la même manière.
Donc on pourra contourner les minima sociaux en fait.
Bah c'est le risque, c'est que effectivement en fait ce que permet la loi travail, c'est que du coup on peut aller négocier sur le temps de travail, donc indirectement on vient négocier en fait sur le taux de rémunération horaire en fait.
Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour soigner l'emploi en France?
Qu'est-ce qu'il faudrait pour soigner l'emploi en France à notre époque? Une première chose, c'est que, et ça c'est très très dur, plus il y a du chômage de masse, puisqu'on est autour de 15% si on prend les chiffres de l'Organisation internationale du travail, on n'est pas à 10% comme l'indique l'INSEE, puisque du coup on se fixe sur les catégories A, alors qu'en fait, des chômeurs, alors qu'en fait il y a plusieurs catégories qui sont importantes à prendre en considération. Donc si on prend un 15% de chômage, la première chose, c'est qu'il faudrait que les gens arrêtent d'avoir peur du chômage. Ça, c'est la première chose, parce que en fait, ça devient un état assez
d'angoisse chronique.
Ça devient un état d'angoisse chronique, mais en fait, les gens ont peur de la stigmatisation. Les gens ont peur de la précarité, mais ont peur de la stigmatisation.
Du regard des autres.
Du regard des autres. Voilà. Comment je vais pouvoir amener mes enfants à l'école sans avoir honte de dire que je suis au chômage? Donc, il faudrait que les individus, en fait, fassent une vraie séparation et fassent un vrai travail sur, c'est drôle de parler de travail, faire un vrai travail sur cette valeur travail et en fait y accorder beaucoup moins d'importance, ça c'est la première chose. Ce qui ne veut pas dire ne pas aimer le travail, ça veut dire moins aimer l'emploi et sortir de cette relation de dépendance qui fait que j'existe par mon travail. Non, on existe par tout un tas de choses, on existe déjà par sa naissance et par porter un nom, ça suffit. Et ça donne une place sociale. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, les gens ne devraient pas avoir à se justifier d'exister. Voilà.
Donc, il n'y a pas d'endroit pour ça. Dans la société, il y a des espaces où on peut justement relativiser un petit peu ça. C'est très difficile de dire à un chômeur, attendez, soyez à la cool. En fait, ce n'est pas un problème.
Non, mais c'est des choses qui ont été tentées de par le temps. Ça s'est fait dans d'autres pays. Il y avait un collectif en Allemagne qui s'appelait Collectif Crisis et qui avait fait un collectif de chômeurs heureux pour dire on a le droit d'être heureux au chômage. En fait, c'est pas une tare sociale. C'est lié à des conditions économiques et macroéconomiques et structurelles. Donc du coup, en fait, ça nous dépasse et donc on n'a pas en fait à en porter le poids de la culpabilité parce qu'il y a une grosse culpabilité judéo-chrétienne par rapport à ça. Ça c'est la première chose. Et puis on arrive sur un changement de modèle. En fait, si on estime que le chômage est chronique, ça veut dire qu'il faut peut-être une meilleure répartition des richesses. Et en fait, ça amène la question d'un droit à un revenu universel.
Alors justement, ce revenu inconditionnel, comme il a été appelé par Benoît Hamon pendant la campagne, c'est quoi en fait le revenu inconditionnel ?
Bah ça, le revenu universel, c'est quelque chose de, ou inconditionnel, il y a plusieurs termes, ça c'est, déjà ça ne facilite pas le dialogue. On va prendre
on va dire, plutôt du revenu universel.
Le revenu universel. Le revenu universel, c'est un changement des référentiels. Ça veut dire que il n'y a plus de lien de dépendance entre la rémunération et la capacité à pouvoir vivre dignement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on considère qu'en fait, chaque individu a droit à une dignité et a droit de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et donc, par conséquent, a droit à un revenu ou une indemnité, appelons-la comme on veut, certains parlent de salaire, où en fait, le simple fait d'exister vous donne le droit d'avoir un revenu minimum d'existence. Ce revenu minimum d'existence, il a plusieurs conditions. La première, c'est qu'il est, la condition, c'est qu'il est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il est pour chacun, voilà, il est pour chaque individu. Quelles que soient ses conditions de ressources, d'activité rémunérée ou non, d'avoir des enfants à charge ou non. Donc il est pour l'ensemble de la population, ça c'est une première chose, c'est une mesure égalitariste. Et la deuxième, c'est qu'il faut créer un seuil, il faut trouver le seuil économique qui permette d'éviter en fait la pauvreté et donc du coup la dépendance à un employeur qui exploiterait les salariés. Voilà. Donc, c'est assez simple. C'est, si on prend un exemple, ça veut dire qu'on donne 1000 euros par mois, par personne, tout simplement parce qu'elle existe et, qu'elle est sur le territoire français. Et qu'à partir de là, elle fait ce qu'elle veut avec.
Économiquement, c'est viable ?
Alors, économiquement, ça, c'est toujours la question. Je pense que c'est une fausse question, c'est qu'on est dans une ère de la rationalité économique et on pense que c'est par les chiffres qu'on va résoudre nos problèmes de société. Je pense qu'on a inversé les choses. Quand on a créé la sécurité sociale sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, la France était ruinée et on a été capable de créer un modèle social qui était ambitieux et qui était utopique et on a su le mettre en place, donc on a créé des ressources pour ça. Donc je pense qu'il faut sortir de l'ornière de est-ce que c'est possible ou pas économiquement. Les mesures des économistes indiquent que oui, c'est faisable économiquement, ça ne va pas faire la ruine du pays. Il faut juste aller chercher les ressources privées qui ont été accaparées par un certain nombre d'individus pour qu'il y ait une meilleure redistribution. Et puis, il faut, pour que ça soit valable économiquement, il faut aller transférer, en fait, il faut faire un transfert de toutes les politiques de la protection sociale liée au chômage ou de toutes les mesures qui incitent au salariat ou de toutes les mesures qui font qu'on veut dynamiser la croissance économique française. Si on récupère tous ces milliards qui sont distribués chaque année aux grandes entreprises ou pour la formation ou pour les contrats aidés ou pour, en fait, on sera en capacité de financer le revenu universel. Donc c'est quelque chose de possible, mais surtout en fait ça pose la question de quelle volonté et quel destin commun on veut se donner. Je pense que une des grosses questions et qui est un des grands oubliés de ce débat sur le revenu universel, c'est que depuis presque 300 ans, le salariat s'est imposé pour à la fois comme facteur de croissance économique et soi-disant donc, du coup de facteur de développement et de modernité et de bien-être social et individuel. Je pense que la raison cachée de la stabilisation du salariat dans la société, c'est le fait que en fait on voulait contrôler les individus. Quand on sait qu'ils sont en emploi, on sait qu'ils sont pas en train de foutre le bordel. Voilà. Et vu qu'il y a une... c'est un vrai enjeu philosophique, c'est comment on considère l'être humain. Est-ce qu'on considère qu'en fait, si on ne le contrôle pas, il va faire n'importe quoi? Ou est-ce qu'on considère que plus on va lui donner de l'autonomie et de la liberté, et plus il va être en capacité de s'autonomiser, et plus il va être capable de devenir beau et épanoui. Voilà. Le salariat, ça sert... le lien de subordination, il indique qu'on pense que sans contrainte et sans contrôle, les individus savent rien faire. Voilà. Juste la petite anecdote, c'est que nous, on a une marotte au niveau politique, c'est tous les ans, on a peut-être qu'il faudrait réintroduire, il faudrait mettre le travail le dimanche. L'argument à l'heure actuelle pour le travail le dimanche, c'est un argument économique, qui montre la rationalité économique dans laquelle on vit, qui est, bah oui, mais si on veut faire de la croissance, il faut ouvrir les plages de production et les plages de vente de nos produits de manufacture, donc il faut travailler le dimanche. Il faut savoir qu'il y a 200 ans, l'argument des gens qui souhaitaient qu'il y ait le travail le dimanche, l'argument, il était social, il était, en fait, si les ouvriers travaillent le dimanche, comme ça, ils ne seront pas au bistrot, ils ne seront pas en train de picoler, ils ne se traperont pas dessus. Voilà. Donc, on voit bien qu'en fait, le salariat, il sert à contrôler la population, il permet d'éviter les émeutes jusqu'à un certain point. Et donc la grande peur qu'il y a en fait avec le revenu universel, c'est qu'il n'y ait plus de cadre. Il n'y ait plus de cadre, de pression, il n'y ait plus de cadre structurel qui régente en fait et qui fasse le média entre les relations humaines. Alors que ce qui est fascinant, c'est que les individus critiquent de plus en plus les conditions du salariat. Et en fait, spontanément et en toute liberté, ils vont s'investir dans des activités qui sont informelles, associatives, bénévoles, et que le bénévolat n'a jamais aussi bien fonctionné, et que le bénévolat, c'est la liberté, c'est l'individu qui souhaite le faire et qui le met en place. Donc on n'a pas besoin de contraintes, en fait, quand on a envie de faire des choses bien.
Merci Samuel Michalon, merci d'être venu nous éclairer de votre point de vue sur le travail et l'emploi. Je rappelle que vous avez co-signé un ouvrage qui s'intitule « Non au temps plein subi », disponible aux éditions du Croquant, sur le web et partout. À bientôt.
Merci.
The thirsty earth soaks up the rain and drinks and gapes for drink again. The plants suck in the earth and are with constant drinking fresh and fresh.
Radiola.media.